Venons-en au dossier de Radio Capi ce matin. Le centre Aroupé pour la recherche et la formation en collaboration avec l'association patronale FEC ont organisé le week-end dernier une réflexion sur le regard croisé du cobalt comme minerai stratégique en RDC. La réflexion portait sur les enjeux économiques, sociopolitiques et environnementaux de ce minerai et qui se vend ces jours-ci à 100 000 dollars américains au niveau mondial alors que la population est pauvre. Que faire alors pour remonter le train de vie des habitants? Un dossier signé Nelly Kabena.
Nous sommes tous conscients de nos ressources du sol et du sous-sol. Et cela nous a valu la dénomination scandale géologique.
Cette introduction du professeur ingénieur Jean-Luc Kaamba, modérateur de ces journées, enrage cependant plus d'un participant. Et lorsqu'il s'exprime, ce sont des mots de colère.
Les entreprises qui sont créées ici ont-elles la participation congolaise? Oui ou non? Non. Le modèle économique au Congo, il n'y a pas. Pourquoi ce n'est pas une préoccupation? La préoccupation, c'est sauver son fauteuil.
Beaucoup d'autres interpellations du genre ont été entendues dans la salle Aroupé, lieu où s'est tenue cette activité. Tous les panélistes ont démontré que le cobalt est devenu aujourd'hui un minerai hautement stratégique dans la mesure où il participe à la ruée du monde futur.
Le cobalt est utilisé dans nombreux programmes et composants, notamment en chimie nucléaire. Vous avez là les missiles, les fusées, les avions, les satellites, les outils de communication.
Les voitures de demain vont dépendre abondamment de l'approvisionnement en cobalt qui vient de la République démocratique du Congo.
Son enjeu économique, c'est son prix. Le cobalt est coté en bourse et s'évalue actuellement à 100 000 dollars américains la tonne. La Chine, qui est placée deuxième producteur mondial et qui exploite une teneur beaucoup plus faible qu'en RDC, produit cependant 3/4 de batteries provenant du cobalt, alors que le Congo en importe. Comment, avec tous ces enjeux stratégiques du cobalt, la population congolaise en général et katangaise en particulier, qui l'exploite, est pauvre? Eric Luamba, expert et analyste en bonne gouvernance, répond.
Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Mais l'une des raisons, c'est que la plupart d'entreprises qui exploitent actuellement sont des entreprises multinationales et que ces entreprises ont bénéficié des avantages que je peux considérer d'exorbitants, qui font que finalement, ils devraient donc amortir leurs investissements dans un temps très réduit et qu'ils ont déclaré des pertes. L'unique moyen que l'État pouvait favoriser l'amélioration des conditions de vie, c'est d'utiliser les taxes que les entreprises devraient payer pour les redéployer dans des investissements sociaux, donc écoles, hôpitaux, aussi dans les secteurs agricoles, mais malheureusement, comme ces entreprises ont déclaré des pertes, et ce n'était pas possible.
Pour tous les organisateurs, il faudra en moyen terme installer un centre de formation des artisanaux pour des formations techniques sur tous les gisements miniers et aussi des formations sur les connaissances des affaires minières. De Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Kapi.
Revue de presse. C'est une compilation signée Jean-Désiré Kanyama.
Le potentiel titre à la une surchauffe sur la toile. Courtisé par la majorité présidentielle, Félix Tshisekedi va-t-il trahir? Le quotidien de l'avenue Bas-Congo écrit que la pression est très grande sur Félix Tshisekedi et la tentation est trop forte. Il a le choix entre rester fidèle à la ligne tracée par son défunt père pour l'avènement d'un état de droit en RDC et tendre la main au président Joseph Kabila dans le cadre d'une nouvelle transition. Le Raïs mise sur le nouveau président, l'élu d'Épaisse, pour s'offrir une béquille et passer outre le cap de décembre 2018. Et au journal, le potentiel de se demander, Félix Tshisekedi va-t-il trahir toutes ces années de combat et cracher sur la mémoire de tous ces martyrs de la démocratie? Réponse sans commentaire, wait and see. Forum des As, titre à la une, l'assainissement de l'appareil judiciaire en marche. Magistrature, Kabila frappe et nomme. Dans une série d'ordonnances rendues publiques hier dimanche, le chef de l'État a révoqué certains magistrats et nommé d'autres. Cela après un travail de fond abattu par les conseils supérieurs de la magistrature, écrit Forum des As. Certains magistrats ont été relevés et révoqués de leurs fonctions, d'autres ont été nommés. Mais pour le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, cité par Forum des As, on n'entre pas dans la magistrature avec l'idée de se faire de l'argent, plutôt avec la détermination de dire le droit. Après Genève, virage à 180 degrés de chez Okitundu, titre à la une Le Phare. Le quotidien de l'avenue Lukusa a écrit à ce sujet que l'argent n'a pas d'odeur. Le journal fait allusion au ministre congolais des Affaires étrangères, chaud partisan du boycott de la conférence de Genève sur la situation humanitaire de la République démocratique du Congo. Pour le Phare, Léonard Cheo Kitundu vient d'effectuer un virage à 180 degrés dès l'annonce de la mobilisation par la communauté internationale d'une enveloppe de 528 millions d'euros en faveur des populations congolaises vulnérables. Le ministre congolais des Affaires étrangères soutient aujourd'hui que la RDC n'a jamais dit non à la solidarité internationale, écrit le Phare. L'agence congolaise de presse titre à la une « Henri Mova Sakani s'engage à résorber les embouteillages à Kinshasa ». C'est ce qui explique sa rencontre vendredi dernier à Kinshasa avec les syndicats des chauffeurs ainsi que les officiers supérieurs de la police de circulation routière. Ensemble, écrit l'agence congolaise de presse, ils ont examiné en profondeur la question des embouteillages dans la ville de Kinshasa dans la perspective d'envisager un meilleur système de gestion des flux de véhicules. Une commission tripartite a été instituée pour proposer des solutions à court, moyen et long terme pour mettre définitivement fin aux embouteillages dans la ville de Kinshasa, écrit l'agence congolaise de presse. Actualité.cd titre à la une. Une nouvelle cache d'armes découverte dans la ferme du général déchu Laurent Kunda. Ce média en ligne écrit que l'armée congolaise a découvert vendredi dernier une nouvelle fois des effets militaires dans une ferme du général déchu dans le territoire de Massissi. Lors des fouilles dans sa ferme, écrit Actualité.cd, les services de FARDC sont tombés sur des effets militaires, notamment des mortiers et des roquettes.
L'invité. Notre invité ce matin, c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheo Kitundu, s'entretient tout de suite avec Élisée Tshikota sur l'aide humanitaire promise à Genève en Suisse par les pays donateurs en faveur de la RDC.
Monsieur le ministre Cheo Kitundu, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la réaction du gouvernement congolais après la libération des fonds par les pays donateurs? Comment vous réagissez par rapport à ça?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable mise au point. Le gouvernement ne s'était pas opposé à la mobilisation de la solidarité internationale. Le gouvernement s'est opposé au fait qu'on l'ait exclu dans la détermination des termes de référence pour l'organisation de cette conférence-là. Alors qu'il y a des instruments juridiques internationaux et qui obligent les Nations Unies à impliquer le gouvernement de la République en tant que partie prenante à part entière, notamment la résolution de l'Assemblée générale sur la question, mais aussi l'accord de Kampala au niveau africain. C'est pour cette raison que nous avons boycotté cette conférence-là. Et nous ne nous sommes jamais opposés à la mobilisation de la solidarité internationale. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir. Donc, malgré toutes les réserves que nous avons formulées, on n'en a pas tenu compte et les organisateurs ont estimé qu'ils étaient à ce point avancés qu'ils ne pouvaient plus reculer. C'est pour ça qu'ils ont maintenu l'organisation de cette conférence. Alors maintenant, cette conférence a eu lieu et puis il y a eu des promesses qui ont été faites par rapport aux contributions des donateurs. Nous prenons acte du résultat acquis, même si le résultat est en deçà de ce qui a été escompté. Parce qu'on escomptait 1,7 milliard de dollars, mais non, on a pu recueillir simplement des promesses pour le tiers que la somme est attendue. Non.
Est-ce que vous permettez que les ONG puissent travailler avec cet argent, au cas où l'argent sera prêt, quoi?
Oui, mais là, encore une fois, c'était un malentendu. Nous, on ne s'était pas opposés à la mise en compte à contribution des ONG pour venir en assistance à nos compatriotes. Là, ce n'est pas ça le problème. Mais vous avez vous-même remarqué que même les ONG sont discriminées parce que beaucoup des pays donateurs estiment que les ONG, même les Nations Unies, estiment que les ONG locales n'ont pas l'expertise en la matière. C'est extrêmement grave. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous allons constater? Les donateurs auront contribué, tout à fait, mais ils vont utiliser leurs propres ONG. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les ressortissants de leur propre pays. C'est eux qui vont utiliser l'argent. Et une partie de ces fonds va être utilisée pour les salaires et les frais de fonctionnement de ces ONG. Et finalement, il y aura peut-être une moitié simplement qui sera dévolue aux bénéficiaires potentiels. C'est tout ça justement que nous voulions voir avec les organisateurs de la conférence pour mieux canaliser ces fonds et afin qu'ils bénéficient aux bénéficiaires potentiels.
L'idée idéale, c'était d'avoir au moins 1 milliard. Alors, voilà. Vous ne pensez pas que la position de la RDC a influé sur la faible mobilisation?
Ah non, pas du tout. Si on n'a pas atteint le montant qui était attendu, je vous rappelle aussi qu'il ne faut pas négliger le fait qu'on a surévalué la situation sur place. C'est aussi la divergence que nous avons avec les organisateurs. Mais cela dit, Il faut bien comprendre cela. Nous sommes les premiers responsables de l'aide à apporter à nos compatriotes parce que c'est nous qui sommes le gouvernement. Même si nous ne disposons pas des moyens suffisants pour venir en aide, un effort considérable malgré les restrictions budgétaires a été fait parce que nous avons disponibilisé 100 millions de dollars. Ça, c'est tout à fait clair. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas participé à la conférence, mais qui ne manqueront pas du tout d'apporter leur contribution directement, soit ce n'est pas au gouvernement de la République démocratique du Congo, mais aux organisations attitrées qui vont assister nos compatriotes. Et il y a beaucoup de pays qui ont adhéré à la position du gouvernement congolais, parce que les Nations Unies, c'est quand même une organisation intergouvernementale. Alors, je vous donne une interrogation, vous ne pouvez pas ignorer le gouvernement de la République. Sur ce point, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas participé. Mais le fait de ne pas participer à cette conférence ne va pas empêcher ces pays d'apporter leur contribution pour qu'on porte assistance aux personnes en détresse.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Je vous en prie.
Okapi Sport. Il est 7h26 ici à Kinshasa, c'est votre temps, Enoch Matondo, bonjour.
Bonjour Pascal Masereka, bonjour à tous les amis sportifs. 0-0 entre Saint-Louis-Poupo et le tout-puissant Mazembe, ça s'est passé hier à Lubumbashi dans le cadre des playoffs du championnat national Vodacom Ligue 1. Et puis une surprise dans la deuxième rencontre, défaite de CS Don Bosco, 0-2 à Lubumbashi devant la formation de Mani Maignan. Une autre surprise est à mettre à l'actif de l'As Dragon de Kinshasa qui est allé battre à domicile en déplacement à Goma, l'As Dauphin Noir, 4-0. Et puis à Kinshasa, il y a eu match de tour de cadrage de la Vodacom Ligue 1 avec la toute première victoire du FC Renaissance du Congo dans ce tournoi. C'était devant le FC Nord Sport de Matadi. Pour le coach de cette équipe, l'adjoint bien sûr, il faut m'y l'essentiel est de gagner. Suivez.
Nous sommes très contents, on a gagné le match. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est à gagner le match. Pour qu'ils sortent le premier en compétition, et ça nous a dit, on a gagné, nous sommes très contents.
Mais le service du Congo a gagné sans convaincre.
Non, non, pourquoi? Nous, le besoin, c'est qu'on gagne les matchs, avec Mané ou sans Mané. Nous, le besoin, c'est qu'on gagne les matchs, c'est tout, c'est pas pour nous. Tu vois, on a plus beaucoup de temps, on n'a pas de compétition. Mais ça, on évolue petit à petit, on travaille, ça change. Par rapport au premier match, deuxième match, troisième match, ça change petit à petit. On va ira, ça ira petit à petit. Nous sommes très contents, nous sommes premiers à 5 points. Je ne sais pas si le retour est là, si le retour c'est là. On va jouer, on va continuer, on va sortir le premier, c'est notre ambition. On va sortir le premier, maintenir dans les tours de cadage, c'est ça notre objectif.
Tigani, tout un coach du FC Nord Sport, attribue cette défaite au manque de la compétition.
Dans des tours de cadrage, on était en vacances, on est surpris de venir jouer. C'est pourquoi vous voyez comment on est en train de jouer. Certainement, ça a pesé sur les joueurs parce qu'ils étaient fatigués. Parce que l'impréparation aussi, ça pèse. Les joueurs n'étaient pas préparés par rapport à la compétition. On était surpris que venir jouer dans les matchs mercredi, vendredi, dimanche, ça a pesé.
En coach, contrairement à la deuxième période, l'équipe a montré de belles phases offensives, mais elle a pêché à la finition. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Oui, tactiquement, nous sommes forts, mais finition, ça ne va pas.
À l'est, fin de la phase allée hier, Rosé Bukavu Dawa et l'UFC Étoile du Kivu se sont séparés sur un score nul et vierge de 0-0. La phase retour commence à partir de ce mardi. En entendant le programme, retenez que Étoile du Kivu est en tête au classement provisoire avec 4 points à Kananga. Le ballon a également circulé dans le cadre toujours de ce tour de cadrage. Blaise Ndonga Lamayanda.
La première explication de ce dimanche a vu l'IS Chinkunku partager les points avec l'Océan Pacifica. Score du match, 1-0. Le club de Kananga a ouvert les scores à la 12e minute par les truchements du milieu défensif Mido Kabamba sur une passe d'Hervé Mbombombo. L'égalisation du club de Mbujimayi est intervenue à la 82e minute grâce au joueur Chibangu Kabeya. Le coach de l'IS Chinkunku ne perd pas encore l'espoir et attribue ses deuxièmes matchs nuls d'affilée à l'indiscipline de certains de ses joueurs et au non-respect des consignes. À la seconde rencontre, ni vainqueur ni vaincu entre les scorpions de l'AC Dibumba et les kamikazes de Lubumbashi Sport. Cette partie s'est terminée sur les scores vierges de 0-0 à l'issue de 90 minutes du temps réglementaire. Ainsi, l'Union Sportive Chinkunku compte 2 points en 2 sorties, ex aequo avec l'AC Dibumba et l'Océan Pacifique. Lubumbashi Sport et Katumbi Football Academy ont chacun 1 point pour un seul match joué. Ce tour de cadrage se poursuit mardi prochain. Lubumbashi Sport matchera Océan Pacifique et l'IS Chinkunku jouera Katumbi Football Academy. De Kananga, Blaise Ndonga Lingala Mayanda, Okapi Sport.
Voilà, donc fin de cette chronique. Mais dans notre intervention de 8 heures, nous allons parler de Ndaye Moulamba, l'ancien léopard de la RDC qui sera dégarpi de sa maison, faute de paiement. Ça sera à 8 heures.
Merci Enoko Matondo et à la prochaine. Terminons par le taux d'échange indicatif de la Banque Centrale du Congo. Notez que le dollar américain s'achète à 1586 francs congolais et se vend à 1651 francs congolais. Fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Grand merci à Ben Kabamba qui a préparé ce journal.